Bonjour à vous, bienvenue à Jardin d'hiver, bienvenue à vous Emmanuel Favier et Julie Héraclès. Vous le savez peut-être si vous êtes un peu calé en géographie, entre la ville de Paris et Chartres, il y a moins de 100 km de distance et pourtant la guerre vécue par les deux femmes dont on va parler cet après-midi a été résolument différente. Différentes peut-être pas dans la marque durable qu'elle a imprimée sur leur vie, mais en tout cas dans les choix qu'elles ont faits. Alors évidemment, il serait très tentant de mettre en vis-à-vis la droite et intègre Rose Valland, incorruptible face aux nazis, héroïque dans sa résistance, et l'orgueilleuse Simone Grivise, déclassée sociale revancharde, séduite par la régénération nationale. Sauf que quand on parle de 39-45, je pense que vous le savez, forcément le gris prédomine. Surtout des doutes, des ambivalences, des questionnements aussi qui peuvent être parfois assez troublants pour les spectateurs que nous sommes plus de 80 ans après. Là où l'histoire peut reconstituer, venir trancher, la fiction, elle, peut combler les blancs, peut faire entendre différents points de vue et peut surtout nous permettre d'accéder à l'intériorité de celles et ceux qui ont vécu les événements. Ce travail de tissage entre le réel et l'imagination, on va beaucoup en parler pendant une heure, ça soulève beaucoup de questions passionnantes, parfois aussi assez polémiques, là aussi on y reviendra. Vous l'avez compris, nos deux invitées sont romancières et non pas historiennes, encore qu'elles ont beaucoup puisé dans le matériau historique. Julie Héraclès, vous avez fait une entrée remarquée en littérature avec ce premier roman, « Vous ne connaissez rien de moi », j'essaie de vous le montrer sans tout faire tomber, paru l'été dernier, au mois d'août, chez Jean-Claude Lattès, premier roman primé, qui a aussi essuyé des critiques, que vous consacrez à celle qui est plus connue sous le nom très anonyme de La Tondue de Chartres, immortalisée, je ne sais pas si vous le voyez ici, sur cette photo célèbre de Robert Capa. Emmanuel Favier, vous aviez déjà mis Rose Valland au cœur de votre troisième roman que je montre et que j'aurai l'occasion de recommander chaudement tout à l'heure, qui s'appelait La part des cendres. Et puis on la retrouve, Rose Valland, peut-être que vous n'en aviez pas fini tout à fait avec elle, dans ce nouveau roman, Le Livre de Rose, paru également en août dernier aux éditions Les Pérégrines. On va partir à la rencontre de ces deux femmes, Rose et Simone. Et on va commencer par s'arrêter sur une année, l'année 1944, et pas tout à fait par hasard sur le mois d'août de cette année 1944, qui est pour elles deux un révélateur, le moment où ce qu'elles ont fait pendant les années de guerre va être rendu public, en tout cas va apparaître au grand jour. Emmanuel Favier, comment on pourrait présenter la Rose Valland de ce mois d'août 1944? Elle a presque 46 ans, mais si vous la visualisez là maintenant, où est-elle? Que fait-elle? À quoi ressemble-t-elle?
Bonjour à toutes et à tous. Merci Justine pour cette présentation. C'est effectivement un moment très important et très intéressant, d'autant plus que Rose Valland est indissociable d'un lieu. C'est le musée du Jeu de Paume, où elle passe toutes les années d'occupation. Donc, Rose Valland est historienne de l'art, attachée de conservation dans ce musée du Jeu de Paume depuis le début des années 30. Le musée du Jeu de Paume, pour ceux qui l'ignoreraient, a servi pendant toute l'occupation de plaque tournante aux nazis. Ils s'étaient installés dans le musée, ils avaient plus précisément installé leur équipe de spoliation, c'est-à-dire que toutes les œuvres, sculptures, peintures qui étaient volées dans les galeries, les appartements des collectionneurs juifs qui avaient été soit déportés, soit qui avaient fui la France, toutes les œuvres étaient entassées au Jeu de Paume. Elle avait d'abord un peu été au Louvre, et puis rapidement, ils avaient trouvé que le Jeu de Paume était beaucoup plus pertinent. Ils ont vraiment tout stocké là-bas. Il se trouve que c'était tout près de la Kommandantur. C'est là que le tri était fait entre ces œuvres, entre celles qui allaient être envoyées en Allemagne, notamment pour garnir les cimaises du futur grand musée de Linz que Hitler avait en tête, Et aussi pour orner les murs de la maison de Hermann Göring, qui est un personnage très important de La part des cendres et qui apparaît dans le Livre de Rose, puisqu'il a fait une vingtaine d'apparitions au musée du Jeu de Paume pour faire son choix. Donc tout ça pour dire que le Jeu de Paume est vraiment l'endroit, on est près de la place de la Concorde, hein, donc c'est vraiment l'endroit clé du moment de la libération. Donc Rose Valland assiste à la libération depuis la terrasse du musée du Jeu de Paume, elle est au cœur du réacteur, d'une certaine façon, à ce moment-là. Et elle se trouve prise par le flux de l'histoire et par cette résistance compliquée, qui est la résistance qu'on appelle de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle elle semblait collaborer avec les nazis, puisqu'elle travaillait sous la direction des nazis au musée du Jeu de Paume. Mais ce qui est révélé à ce moment-là, c'est qu'elle a fait un travail d'espionnage, c'est-à-dire qu'elle a pris en note clandestinement, au péril de sa vie naturellement, toutes les œuvres d'art qui transitaient par le musée du Jeu de Paume, donc leur provenance, de quelle collection elles venaient, et surtout l'endroit où elles allaient être envoyées. Donc c'est grâce à Rose Vallant qu'on a retrouvé plusieurs dizaines de milliers d'œuvres d'art après la guerre. Donc elle est vraiment à ce moment-là, effectivement, découverte, d'abord accusée très très brièvement d'ailleurs de collaboration. Elle et Jacques Jaujard, qui était le directeur des musées nationaux, qui était également un grand résistant, ils sont d'abord accusés, puis très vite blanchis par les forces de l'intérieur. Et c'est un moment, effectivement, ce moment de fin août 1944, qui est crucial pour elle.
Et d'ailleurs, août 1944, c'est aussi le moment d'un de ses faits de gloire, on peut le dire comme ça, le plus connu, elle qui a été plutôt une résistante de l'ombre,
un fait d'armes.
Si on peut l'appeler, qui a inspiré Hollywood carrément dans les années 60.
Tout à fait, oui. C'est un peu avant. Alors, je ne sais plus si c'est début août, je crois. Hein, j'ai plus la date exacte en tête. Elle entend parler d'un convoi d'œuvres d'art qui part pour l'Allemagne, un dernier convoi chargé à ras-bord de plusieurs centaines de Picasso, Braque, Matisse, etc. Donc, qui sont envoyés par les nazis, qui jusqu'au dernier moment, c'est dingue, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre, et ils continuent à penser à leurs œuvres d'art et à tout ce qu'ils vont pouvoir piquer au patrimoine français. Et donc, elle sait qu'un train part et que ce train risque d'être bombardé par les alliés. Et donc, elle fait en sorte que ce train soit intercepté. Et donc, c'est vraiment un fait héroïque qui a été adapté par John Frankenheimer dans les années 60 sous le titre Le Train, pour ceux qui l'ont vu, qui est un film très, très héroïque, hollywoodien à 100%, mais qui est pas mal, hein, cela dit, moi, j'ai pas détesté. On voit le personnage de Rose Vallant, alors qui s'appelle Rose quelque chose, c'est pas Rose Simone, c'est parce qu'elle s'appelle Simone dans un autre film. On la voit un petit peu interprétée au début par Suzanne Flon, mais elle a été conseillère d'ailleurs technique sur ce film.
On se téléporte de Paris à Chartres, hein, je le disais, même pas une centaine de kilomètres. Julie Raclès, pour votre personnage de Simone Grivise, ce mois d'août 1944, au contraire, va être le moment de la chute. Le 16 de ce mois d'août, les troupes américaines entrent dans Chartres et au petit matin, c'est comme ça que débute votre roman. Il est 6 heures et quelques, elle est arrêtée par les résistants locaux. Qu'est-ce qui lui est reproché à ce moment-là de l'histoire ?
Alors, le 16 août 1944, il lui est reproché uniquement d'avoir eu une relation avec un Allemand et d'avoir eu un enfant avec lui. À ce moment-là, la plupart des personnes qui l'arrêtent n'ont pas connaissance d'autres éléments. Mais elle sait ce qu'elle a fait et elle ne sait pas ce que les autres savent exactement. Et elle a été, en fait, suspectée d'avoir dénoncé ses voisins. Voisins qui écoutaient la BBC et qui ont été déportés. Et deux d'entre eux ne reviendront jamais des camps de déportation. Donc, à ce titre-là, elle sait qu'elle risque d'être tuée, elle risque la mort. Mais ce matin-là, elle ne sait pas ce qui l'attend exactement. Peut-être qu'elle va mourir à la fin de cette journée.
On découvre cette femme très jeune, elle a la petite vingtaine, elle approche de ses 23 ans. Avec ses parents, elle est menée de force jusqu'à la cour de la préfecture de Chartres, là où sont parqués temporairement les collabos présumés. En quoi l'atmosphère de ces jours très précis, hein, cette période de grand flou, de fin de l'occupation, la bande-son, les images de ce moment vous inspirent? Je crois que vous avez dit à plusieurs reprises que ça a été vraiment le départ de votre roman, qu'en tout cas vous vouliez écrire sur ce moment-là de l'histoire.
Alors, c'est vrai que c'est d'abord la photo, en fait, qui m'a toujours interpellée. Cette photo, donc, elle a été prise dans ma ville, je suis chartraine, je l'ai toujours connue, je l'ai étudiée au lycée. Et c'est vrai que quand je ne connaissais pas l'histoire réelle de cette femme, j'ai pu me dire qu'elle était une victime, qu'elle était le symbole de l'épuration sauvage, ce qu'on a pu faire subir aux femmes qui avaient eu des relations sexuelles avec les Allemands. Plus tard, en 2011, j'ai appris qu'en fait, elle n'était pas que victime, puisqu'elle avait sciemment collaboré. Et c'est assez rare, en fait. Les femmes qui ont été tondues à la Libération, il y en a très peu, finalement, qui ont collaboré. Sur les 20 000 qui ont été tondues, peut-être 5 % ont collaboré. Donc, elle, c'est un cas, c'est un destin vraiment singulier. Et donc, quand j'ai appris qu'elle a, enfin, les faits qui lui étaient reprochés, je me suis demandé, mais comment, pourquoi cette femme, cette si jeune femme qui est issue d'un milieu populaire, comment est-ce qu'à un moment elle a fait ce choix-là? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue collaboratrice et pas résistante? Enfin, qu'est-ce qui a pu la pousser? Et l'enquête historique, en fait, ne me permettait pas d'appréhender la totalité, l'intégralité des faits, des événements, des circonstances, des convictions qui permettent d'appréhender cette destinée-là. Donc c'est pour ça que je suis passée par le roman, pour essayer d'entrer dans la psychologie de ce personnage, pour essayer de retracer son enfance et son adolescence.
Et si vous voulez bien nous lire un petit extrait, avant même d'aller sur le comment elle devient cette femme qui pose ses choix, vous nous faites aussi vivre cette journée du 16 août, et vous nous la faites vivre de l'intérieur, et ces fameux supplices très particuliers de la fin de l'occupation qui sont réservés uniquement aux femmes, effectivement.
Alors, paraît qu'il y en a une qui a ouvert ses cuisses au chleu et qui a pondu un chiard, c'est laquelle? Il nous sert un sourire de vicelard. Ses copains continuent à se gondoler. Parmi les femmes du mur, aucune ne moufte. Qu'est-ce qu'il croit, ce connard? Alors c'est qui? Il faut bien qu'on commence. Il hurle maintenant, il vire au violet. À ce moment-là, maman fourrage pour saisir ma main. Je ne veux pas la lui donner, je retire mes doigts d'un mouvement sec. Trop tard, le connard m'a vu. Je viens de signer mon arrêt de mort. Ah, c'est toi! Viens donc ici. T'es mignonne, dis-moi. Les boches ont eu raison de t'engrosser. Mais maintenant, va falloir payer. Amène le baquet, Fayard, et la chaise aussi. Tout va très vite. Je suis empoignée par les épaules et assise de force dans un baquet d'eau glacée. Le froid me saisit, s'infiltre dans ma robe, dans ma culotte, me brûle presque. Je réprime un cri. Ne rien leur montrer. Ça, c'est pour te refroidir la chatte, des fois que t'aurais encore le feu au cul. Puis les mains me soulèvent à nouveau, me pelotent le corsage au passage et me poussent sur une chaise. Un type m'attache les poignets par derrière. Maman hurle. Ma fille, laissez ma fille tranquille! Puis plus rien. Elle vient de se prendre un coup de poing dans la mâchoire. Dans mon dos, des paluches saisissent ma tête et la retiennent en étau. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je peux plus bouger. Le connard s'approche de moi, me postillonne dessus. C'est bizarre, je n'entends plus ce qu'il vocifère. Mes oreilles ne font que bourdonner. Il est armé d'une sorte de bâton au bout rougeoyant. On dirait du feu. Je tente de me lever. Des mains m'agrippent, me forcent à me rasseoir. L'autre s'agite devant moi avec son tisonnier incandescent. À ce moment-là, une image se superpose dans mon cerveau. Une femme, l'héroïne d'un roman américain, la lettre rouge. La lance danse devant mes yeux. Orange, jaune, aveuglante. Cette femme avait été condamnée à porter sur sa poitrine un A, symbole de son adultère, symbole de son humiliation. Comment s'appelait-elle déjà? Il ne va pas me crever les yeux, ce fils de pute. Je baisse mes paupières le plus fermement possible. Mais c'est dans mon front qu'il enfonce son dard. Au début, je ne sens rien. Je vais bien le trouver, ce nom. Et puis le feu déboule. Il irradie dans chaque os de mon crâne, dans chaque parcelle de mon cerveau. Ma tête brûle, je veux crier, mais rien ne sort. J'ouvre les yeux, les mains me lâchent, maman accourt. Je me sens partir. Ça y est, je m'en souviens de son prénom, Esther. Je suis la nouvelle Esther. Je m'écroule.
Et quelques instants plus tard, vous le comprenez, Simone va être tondue comme 20 000 femmes à peu près en France à la fin de la guerre. Être une femme pendant la guerre, justement, qu'on soit résistante, qu'on soit collabo, voilà une question qui doit vous intéresser. Emmanuel Favier, dans vos romans, je le disais, c'est le quatrième, il y a, me semble-t-il, une obsession qui revient toujours et qui touche au dépassement des déterminismes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va devenir une personnalité singulière, va pouvoir émerger comme personnalité singulière malgré les empêchements, malgré les carcans? Et là, Rose Vallant, c'est du pain béni. Si on pense empêchement et carcans, c'est quand même assez chargé, on va dire.
Oui, en effet, c'est vraiment une question qui, presque malgré moi, traverse tous mes livres, cette question de l'émancipation et de la façon dont on s'approprie ou pas, dont on subit ou pas le bagage qui nous est donné à la naissance. Alors, il se trouve que ça touche beaucoup des personnages de femmes, je pense principalement parce que je suis une femme et que je m'interroge à partir de là. Ce n'est pas forcément une volonté de traiter cette question-là en particulier, mais aussi parce qu'évidemment, les questions d'émancipation se posent d'une façon spécifique pour les femmes. Et dans le cas de Rose Valland, on a un triple dépassement des déterminismes, puisque au-delà du fait que c'est une femme dans un milieu très très masculin, qui est le milieu de l'histoire de l'art, à l'époque, il faut imaginer que la première femme conservatrice est nommée en 1946, et c'est même pas Rose Valland, c'est une personne avec qui elle a beaucoup travaillé d'ailleurs, Jacqueline Bouchot-Sopic, et elle-même n'aura son titre, alors même qu'elle monte des expositions, qu'elle fait des catalogues depuis très longtemps au musée du Jeu de Paume, elle n'a son titre de conservatrice que 7 ans après la guerre et encore au plus bas échelon. Elle est dans un milieu très misogyne, clairement, ça joue, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une transclasse, puisque Rose Valland vient d'un petit village de l'Isère, Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, près de Grenoble, d'une famille très modeste, mère au foyer, père maréchal ferrant, et vraiment rien ne la prédestine à monter à la capitale et à faire partie de ce monde de l'art d'avant-garde, hein, parce que le musée du Jeu de Paume pendant la guerre, avant la guerre, c'est vraiment le lieu de l'avant-garde. Donc sa mère fait tout pour la pousser. Sa mère écrit des lettres pour qu'elle obtienne des bourses, fait en sorte qu'elle puisse faire des études. Donc elle va faire les Beaux-Arts à Lyon, puis à Paris. Elle a vraiment cette notion d'ascension sociale, de travail. Et puis, troisième déterminisme qu'elle transgresse, c'est sa sexualité, puisqu'elle est homosexuelle, relativement assumée, c'est-à-dire pas du tout assumée dans sa famille. Hein. Dans sa famille, personne ne sait qu'à Paris, elle vit avec une femme, puisqu'on sait qu'elle vit, elle a passé la deuxième partie de sa vie. On ne sait pas exactement quand elle rencontre sa compagne, sa grande compagne Joyce, on en reparlera peut-être, mais voilà, on ne sait pas si c'est juste avant, pendant ou juste après la guerre. Toujours est-il qu'elles vivent ensemble assez vite et qu'elle fera même enterrer Joyce, qui, bien que plus jeune qu'elle, meurt avant elle. Elle l'a fait enterrer dans le caveau familial à Saint-Étienne de Saint-Jouard. Donc voilà, on voit tous les obstacles contre lesquels elle a dû aussi se battre, au-delà du contexte même de résistance. Il y a une résistance en tant qu'être humain vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit.
Pourquoi revenir à Rose Valland, je le disais, dans La part des cendres, vous voyez l'épaisseur du pavé, on la suivait déjà sur plusieurs centaines de pages, hein, puisque le roman est consacré à 2 siècles de spoliation d'œuvres d'art. Pourquoi vous avez eu envie de revenir sur ce personnage dans un deuxième roman? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas réussi à capter d'elle?
Il y a plusieurs raisons. Bon, une raison circonstancielle qui est que j'ai fait la connaissance de la directrice des éditions Les Pérégrines et qui m'a parlé de sa collection Les Audacieuses, qui est toute récente. Hein, je crois que c'était le troisième volume de la collection ou le quatrième sur 5. On discutait et je lui dis, ah, mais il faut faire un Audacieuse sur Rose Valland, c'est tout à fait approprié. Elle m'a dit, faites-le. Bon, je me suis dit, ah bah, c'est vrai, quand même, j'étais partie sur d'autres projets. J'avais effectivement déjà consacré une bonne partie de mon roman à Rose Valland. Mais il est vrai que, d'une part, donc, dans toutes les rencontres que je pouvais faire après pour la promotion de La part des cendres, Rose Valland revenait beaucoup. Alors qu'il y a énormément de personnages, hein, dans ce livre, c'est pas centré sur elle. Mais elle marquait beaucoup les esprits. Et quelque chose que je trouvais que je n'avais pas suffisamment traité dans La part des cendres, parce que ce n'était pas le sujet non plus, mais qui m'obsédait un petit peu, c'était vraiment la notion de transmission. L'idée un peu obsédante que Rose Valland a consacré toute son existence à défendre le patrimoine national, parce que bon, pendant la guerre, donc elle risque sa vie pour protéger les œuvres d'art, et après elle va consacrer toute sa vie, vraiment jusqu'à son dernier souffle, pour essayer de retrouver les œuvres qui ont été réparties, dispersées un petit peu partout en Europe. Donc elle va arpenter vraiment l'Europe pour les retrouver. Et donc elle est vraiment dans cette logique de transmettre un patrimoine aux générations futures, alors même qu'à titre individuel, elle n'a rien transmis, dans le sens où, en tant qu'homosexuelle, elle n'a pas eu d'enfant, elle était fille unique, donc pas de neveu-nièce. Joyce, je l'ai dit, est morte avant elle. Voilà, donc elle meurt vraiment très seule. et avec une espèce d'héritage qui devient un héritage symbolique, puisqu'on a donné son nom à une base de données répertoriant les biens spoliés. On commence à parler beaucoup d'elle. Hein. Vous avez peut-être croisé cette année, il y a eu énormément de choses sur Rose Vallon qu'on ne connaissait pas vraiment avant.
On va avoir un petit aperçu de comment vous, plutôt votre narratrice, dont on dira un mot tout à l'heure, essaye d'approcher aussi la psyché de cette femme qui a quelque chose d'assez impénétrable. Et pour ça, elle regarde des photos, ce que je vous invite à faire d'ailleurs aussi en rentrant à la maison, à regarder des photos de Rose Vallon. Voilà comment votre narratrice essaie de cerner cette personnalité.
Oui, donc c'est un jeu contemporain qui enquête sur Rose Vallon. On suit son enquête. La femme qui passe la frontière franco-allemande en 1945 n'est plus la même. Elle s'est épaissie, l'âge et l'inquiétude l'auront fait grossir. Ses cheveux ont grisé, ses cernes se sont creusées. Surtout, elle a pris de l'assurance. Certes, toutes les femmes que je connais, moi la première, sont résolues, passé la quarantaine, à ne plus se laisser dicter leurs actes ni leurs désirs. Mais entre son tempérament, peu disposé à subir les déterminismes et ce qu'elle a traversé, Rose entame la deuxième moitié de sa vie telle une guerrière. Toutes les photographies datant de cette période la montrent en uniforme. Il n'existait pas encore de tenue militaire destinée aux femmes. Elle a donc taillé la sienne, changeant le pantalon en jupe dans la capote d'un ami aux proportions généreuses. Je me demande qui est cette amie. Quels amis Rose pouvait-elle avoir alors qui semble avoir travaillé à en perdre haleine et donc le goût de la convivialité ? Elle a sympathisé notamment avec un certain Léon Christophe, un des officiers beaux-arts français venu d'Alger pour aider la commission de récupération artistique. Mais des amis hors du milieu professionnel, on n'y songe pas, car de ce cercle, jamais elle ne sort. Rose porte un béret. Je découvre la signalétique des couvre-chefs militaires. James porte le calot réglementaire des officiers américains, les officiers français la casquette, les femmes le béret. L'uniforme est vert kaki, ce que ne révèlent pas les photographies en noir et blanc, mais qui me paraît évident, bien que j'apprenne par une petite recherche que le passage du bleu au kaki ne date que de 1935. Je trouve dans une autre biographie un portrait d'elle en plan rapproché. Ses trois galons de capitaine sur l'épaule droite, elle sourit comme sur les portraits d'écoliers à fond pastel que l'on tirait à chaque automne lorsque j'étais enfant, et que les parents payaient une fortune avant de les laisser prendre la poussière une année durant sur le buffet de la salle à manger. Mais un autre portrait de la même série, sur lequel ses décorations sont visibles à sa poitrine et indiquent son rang, me frappe davantage. Ses lèvres sont entrouvertes, comme si elle venait de faire un trait d'esprit, regardant le photographe d'un air presque provocateur derrière ses lunettes qu'elle avait exceptionnellement ôtées sur le portrait précédent. Elle serait presque mutine avec son menton fin et ses paupières légèrement tombantes sur des yeux profondément bruns. Elle est surtout déterminée, comme toujours. Et dans son regard, lui, une sagacité, une vivacité qui se résume à ces quelques mots. Cette femme n'est jamais dupe.
Les photos, voilà un point commun de plus à vos deux livres. Julie, vous nous l'avez dit, le point de départ de votre roman, c'est cette photo célèbre de Robert Capa. Et puis Emmanuel, dans le livre, on a plusieurs descriptions de photos comme ça. La narratrice essaye de capter la voix intérieure, la personnalité de Rose Vallon. Comment vous regardez les photos, comment vous les faites parler pour l'écriture d'un roman? Julie, peut-être pour commencer, j'aimerais vous entendre aussi, Emmanuel.
En fait, c'est vrai que la photo, elle est déjà une interprétation du réel, dans le sens où chacun va apposer son imaginaire en fait, sur une photo. Elle ne nous dit pas tout. Donc à nous d'imaginer ce qui a pu se passer avant, ce qui a pu se passer après. À nous d'imaginer la vie des protagonistes sur la photo. Après, sur la photo de Capa, c'est là le génie en fait, de Capa. Il a su capter un instant qui est devenu un symbole. Cette photo a fait le tour du monde, elle a illustré les livres d'histoire et elle est devenue donc, le symbole de l'épuration sauvage. Avant de prendre cette photo, il en a pris d'autres qui n'avait pas du tout la même portée. Il s'est reculé, il a eu une profondeur de champ et il a su capter ce moment où Simone Touzeau a la tête penchée sur son enfant. Ce n'était pas le cas sur les précédents clichés. Et le fait qu'elle regarde uniquement son enfant, qu'elle est comme indifférente à la foule qui la conspue autour, Ça donne évidemment une portée éminemment symbolique à la photo. Il y a également le drapeau qu'on voit au loin, donc gigantesque drapeau bleu, blanc, rouge qui symbolise la fin de l'occupation, la fin de la guerre. Cette photo, voilà, il y a tellement de détails. Après, pour cette photo, j'ai regardé chaque visage autour. Il y a beaucoup de femmes qui rient, c'est un moment de joie, un moment de liesse. Et j'ai essayé d'imaginer finalement la vie de chacune de ces personnes, la petite fille également, qui était-elle. Donc voilà, c'est une photo qui m'a inspirée.
Vous, Emmanuel, les photos sont présentes dans vos différents romans. En tout cas, il y a toujours ces passages où vous observez la photo, vous la tournez, on imagine. Comment vous travaillez avec ce matériau-là ? Peut-être que d'ailleurs, je me l'imagine complètement, mais je vous imagine bien penchée sur des photos.
Oui, alors ça a commencé avec mon deuxième roman qui portait sur l'enfance et l'adolescence de Virginia Woolf, qui est une période qui est assez peu documentée. Mais dont on a des photos absolument extraordinaires parce qu'elles ont la particularité d'être non pas des portraits posés comme c'est plutôt le cas pour les photos par la suite, mais il se trouve que la demi-sœur de Virginia Woolf avait reçu un appareil photo en cadeau à Noël et qu'elle s'était passionnée pour la photo et qu'elle prenait... on imagine que c'était pas non plus comme les smartphones d'aujourd'hui, donc c'était pas aussi simple que ça, mais en tout cas des photos qui ont l'air spontanées, vraiment des prises sur le vif. Et ces photos sont extrêmement révélatrices. Donc j'ai vraiment beaucoup plongé dans ces images-là où on voit qu'elles sont un peu floues. On voit Virginia ado, un peu échevelée, et j'ai réussi à en faire reproduire deux ou trois dans le livre. Donc je vous invite éventuellement à acheter un œil. Ces images sont incroyables parce que j'ai l'impression qu'elles me parlent, ce qui n'est pas le cas quand je regarde des portraits officiels. De Virginia Woolf, il y a vraiment une capacité empathique et d'identification absolument énorme et vertigineuse. Et donc j'ai effectivement passé des heures et des heures et des heures à les scruter comme si elle me parlait davantage encore que des extraits de journaux ou des récits ou des mémoires. Évidemment, je me suis beaucoup documentée pour La Part des Cendres, donc les photos ont fait partie du travail aussi. Mais avec le livre de Rose, j'ai refait le même... J'ai pu vivre la même chose. Et alors, je veux juste dire un mot sur la couverture, parce que, comme je l'ai mentionné dans l'extrait, la plupart des photos de Rose Valland, on la connaît soit en uniforme avec les tableaux qu'elle a récupérés en Allemagne, soit dans sa période Jeu de Paume qui précède, où on la voit au musée du Jeu de Paume, plantée comme un i à côté des grosses statues de l'Italie pré-fasciste. Enfin bon, c'est assez particulier. Et on connaît moins des photos plus personnelles. Et celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle ne regarde pas la personne qui prend en photo. Je me suis imaginé que c'était Joyce qui la prenait en photo. Là, elle est, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais elle est sur un bateau, sur le lac de Constance. Elle s'allume une clope et elle s'en fout complètement de ce que nous, on pense. Et j'aime bien ce côté-là chez Rose Valland. C'est ça aussi dont j'avais envie de parler, ce côté déterminé, un peu bulldozer aussi, qui ne se préoccupe pas tellement de ce qu'on pense, ce qui lui attire évidemment beaucoup d'ennuis. Le côté un peu, pas rebelle, dissidente, j'aime bien aussi ça. Elle fait des choses pas dans l'ordre. Quand elle va chercher des choses, des tableaux en Allemagne, elle n'hésite pas, pour pénétrer en zone d'occupation soviétique, à se faire passer pour un écrivain. Enfin, voilà, elle ment, elle traficote pour arriver à ses fins, parce qu'elle croit en sa cause. Et ça, j'aime beaucoup ça chez elle, et je trouve qu'on le sent bien dans cette série de photos intimes.
Vous dites des photos, elles me parlent, et on en vient à cette question de la voix qui vous travaille aussi dans votre écriture. Vous, Emmanuel, vous avez le besoin, en tout cas, d'entendre à un moment la voix de Rose Valland. Il y a quelques archives audio. Vous, Julie, vous avez travaillé autour de cette question en vous demandant quelle voix vous alliez donner à Simone Grivise, je rappelle, Simone Grivise, c'est le nom du personnage, mais vous avez compris qu'il y a la Simone Touzeau qui a réellement existé. Vous avez fait le choix de construire votre roman sur son unique point de vue, à la première personne, on l'a entendu dans l'extrait que vous avez lu. Pourquoi ce choix d'abord ? Je crois que ce n'était pas votre choix initial d'ailleurs.
Alors c'est vrai que le choix de la première personne du singulier ne s'est pas imposé d'emblée. J'ai d'abord commencé à écrire à la troisième personne. Et il m'a fallu un an pour me rendre compte qu'en fait, le fait de la faire parler, ça me permettait de mettre de la distance, paradoxalement, de mettre de la distance avec mon personnage, puisque c'était elle qui parlait, c'était elle qui prenait ses décisions, c'était elle qui faisait les mauvais choix. Et ce n'était pas un narrateur extérieur qui choisissait de raconter telle ou telle circonstance. Donc ça m'a beaucoup aidée, le fait de choisir justement la première personne. Et après, je trouvais que sa voix manquait de personnalité. C'est-à-dire que j'ai imaginé pendant longtemps que dans ces années-là, on avait un langage guindé. Et en lisant des romans, en relisant certains romans qui ont été écrits à cette époque, je me suis rendu compte que je pouvais me permettre beaucoup plus de liberté. Et j'ai imaginé que Simone, venant d'un milieu populaire, d'un milieu petit commerçant, pouvait parler de manière très argotique, voire vulgaire à certains moments. Et donc voilà, donc je l'ai fait parler comme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, à la faire parler ainsi. Et je trouve que ça lui confère une personnalité qui lui est propre, en fait. C'est vraiment ce qui la distingue. Et en même temps, c'est ce qui la trahira toujours. C'est-à-dire qu'elle cherche désespérément à s'émanciper de sa condition sociale, mais son langage la rattrape, son langage la trahit. Notamment quand elle va rencontrer à un moment elle est très admiratrice de sa professeure d'allemand, qui lui dira « Mais en fait, tu ne fais pas partie de notre monde, tu ne parles pas comme nous. » Voilà.
Emmanuel Favier, vous avez fait un tout autre choix de narration, puisque le livre de Rose, c'est le journal d'une réalisatrice de documentaire qui envisage de consacrer un film à cette femme et qui va consigner pendant des mois, commenter dans son carnet ses recherches, ses découvertes, ses réflexions, ses doutes. Pourquoi était-il, par exemple, exclu de faire parler Rose Vallant, hein ?
Je pense un peu pour les mêmes raisons qui avaient exclu que je fasse parler Virginia Woolf à la première personne, c'est-à-dire une forme de révérence. Alors, bien placée ou non, ça, je laisse le lecteur décider, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, au-delà du fait qu'elle est résistante, que c'était une résistante et que voilà, il y a ce caractère admirable, les risques qu'elle a pris, il y a quelque chose, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu besoin d'y revenir, il y a quelque chose un peu impénétrable chez Rose Vallant, un peu intouchable, qui, déjà dans La part des cendres, j'avais du mal à la romancer, j'avais du mal à la mettre dans des situations dont je ne savais pas si elle avait, dont je savais qu'elle ne les avait pas vécues, j'avais du mal à combler les blancs, j'avais du mal à... J'étais vraiment extrêmement respectueuse et révérencieuse, d'où ce choix en fait de passer par, je voulais pas faire une biographie parce que je suis pas biographe, de passer par un autre personnage qui prend en charge la biographie. Donc c'est mon personnage de narratrice qui est romanesque dans le fond. Je précise que ce n'est pas moi, ce jeu n'est pas Emmanuel Favier. Même si c'est une femme de 40 ans, donc une quarantaine d'années, donc on peut imaginer que voilà, Mais je tenais à en faire un personnage romanesque, mais qui se pose aujourd'hui des questions sur la notion de transmission en tant que femme qui se pose la question d'avoir ou pas un enfant, et en tant qu'artiste surtout, qui va laisser un héritage. Et donc ça me permettait de faire le lien avec cette question de la transmission. Donc après, j'ai conservé cette révérence, mais ce qui m'a donné la liberté romanesque, c'est que j'ai pu émettre des hypothèses. C'est-à-dire que, n'étant pas biographe, n'étant pas historienne, j'avais pas cette contrainte de la spéculation. Au contraire, je pouvais m'autoriser la spéculation et imaginer des scènes. Donc mon personnage imagine des scènes dans lesquelles Rose Vallant évolue. Donc ce ne sont pas des scènes romanesques, mais le fait de dire « et si ?» J'imagine que ça se passe comme ça, voilà, ça me donnait une immense liberté. C'est quelque chose que j'avais... déjà pas mal exploré dans les livres précédents, mais là je me suis vraiment amusée avec cette notion d'hypothèse et puis pour essayer d'atteindre sa voix, ce qui est à peu près impossible, hein, parce que bon, on a des archives radio qui nous permettent d'entendre. Alors pour le coup, elle a un accent très 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 guindé comme ça, voilà, de l'époque.
Bon, des n'est-ce pas,
tous les trois mots, c'est assez rigolo. Bon, d'autant que pour le coup, elle vient d'un milieu populaire, mais j'imagine que la fréquentation aussi des milieux artistiques parisiens, elle a pris un petit peu de snobisme comme ça. Ces archives sont accessibles assez facilement sur Internet, contrairement à ce que la narratrice fait, qui galère totalement à les trouver et puis qui finit par les trouver. Ce qui est un peu mon cas, en fait. Je les ai cherchées de façon très compliquée alors qu'elles étaient faciles d'accès. J'aime bien mettre en scène justement l'enquête, les tâtonnements, les recherches. Et pour ce qui est de sa voix écrite, donc elle a laissé un témoignage sous forme de livre de son action. C'est assez austère, c'est très factuel. Donc ça raconte vraiment cette période de l'occupation. C'est intéressant comme document, évidemment, mais c'est pas ça qui m'a permis d'atteindre la chair de Rose Valland. Donc j'aurais aimé. On a sa correspondance privée avec sa famille, mais c'est une correspondance qui reste un peu distanciée parce que justement, elle avait une double vie. Elle avait sa vie parisienne avec Joyce, sa compagne, et sa vie iséroise. On n'a pas encore affaire à elle vraiment. Et il aurait fallu pouvoir mettre la main sur sa correspondance privée avec Joyce, puisque quand elle part en Allemagne, voilà, se sont beaucoup écrits. Mais ça a été brûlé par la famille, très vraisemblablement pour éviter de débruiter le fait qu'elle était homosexuelle. Et on a conservé uniquement une lettre de Joyce qui s'est égarée dans les archives professionnelles de Rose Valland, et qui est tellement géniale que j'ai demandé à l'éditrice qu'on la retranscrive intégralement dans le livre. Donc, je vous laisserai la découvrir à ce moment-là.
Dans ce que vous dites sur l'importance que vous accordez au fait de donner accès un petit peu aux coulisses de l'écriture, en tout cas de donner à voir les tâtonnements, les questionnements, moi j'entends surtout peut-être une interrogation sur la liberté de la fiction face aux faits historiques. Je ne sais plus si c'est dans ce roman-ci ou dans un précédent. Vous dites clairement la crainte de trahir la réalité historique. Vous employez ce terme de trahir. Et là, je me dis que c'est un questionnement que vous avez dû toutes les deux avoir dans l'écriture de ces romans. J'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce que serait pour vous, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, trahir la réalité historique ? Sur quoi avez-vous le plus buté ? Sur quoi vous êtes-vous peut-être le plus posé de questions ? Je commence par vous, Julie.
Alors, en ce qui me concerne, enfin, ma grande interrogation, c'était vraiment d'essayer d'appréhender le pourquoi des choix et le pourquoi des mauvais choix. Pourquoi est-ce qu'on devient collaborateur et pourquoi pas résistant ? Ça a été vraiment l'objet de ma quête, en fait, pendant toute l'écriture de ce roman. Et donc, j'ai essayé d'égrener les raisons qui me semblaient plausibles tout au long du roman. Donc, par exemple, il m'a semblé que l'univers social, l'univers familial où était née Simone a été fondamental. C'est-à-dire qu'elle est née dans une famille qui était antisémite, qui était anticommuniste, qui était antifropopulaire. Elle a été bercée par ces idées-là toute son enfance. Donc, ça a pu développer chez elle des convictions. Mais en même temps, sa sœur, qui est élevée dans la même famille, ne développera pas du tout des convictions nazies. Donc, ce n'est pas que l'atmosphère familiale, c'est aussi la psychologie du personnage. Donc, j'ai essayé de construire un personnage qui était orgueilleux, qui était violent, et qui avait une revanche à prendre aussi sur la vie, sur les humiliations qu'elle a pu subir pendant son enfance, pendant son adolescence. Le déclassement social aussi de ses parents m'a semblé être un élément qui a pu la conduire à faire ces choix-là. Voilà, donc il n'y a pas une raison, je dirais qu'il y a une conjonction à la fois de circonstances et de convictions personnelles qui font qu'à un moment, au moment où l'occupation commence, bah, elle va faire le choix de travailler pour les Allemands, faire le choix de collaborer, faire le choix peut-être d'avoir dénoncé ses voisins. Et elle n'a pas pris le chemin de la résistance comme d'autres.
Dans les raisons, dans les motifs que vous esquissez, il y en a qui sont au moins en partie le fruit de votre imagination. Il y en a aussi qui tiennent plus des faits quasi avérés, en tout cas qu'on peut considérer comme des faits historiques. Ce que vous dites par exemple sur le déclassement social de cette famille, ça, les historiens nous disent quelle a été la trajectoire, quelles ont été les étapes qu'a connues cette famille. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des sources historiques ? Est-ce que ça fait partie de votre travail de construction du roman ?
Oui, alors bien sûr. Donc ce personnage de la véritable Simone, ce n'est pas un personnage historique. Donc pendant longtemps, on ne savait rien sur elle et on imaginait beaucoup de choses. Et en 2011, il y a deux historiens locaux, Chartrain, qui, au tout départ, c'est un prof d'histoire qui travaille sur cette photo avec ses élèves. Et à la fin du cours, une de ses élèves lui dit « Mais finalement, c'était qui cette femme, monsieur ?» Et là, il se dit « Mais oui, en fait, qui était-elle ? Je ne connais pas sa trajectoire, je ne connais pas son passé. » Et donc, il a commencé à faire des recherches, il s'est penché sur les archives. Il y a très peu de choses que l'on connaît, mais il y a tout ce qui concerne le procès. Il y a eu un procès a posteriori, donc il s'est appuyé beaucoup sur les minutes de ce procès pour essayer de reconstituer sa vie. Voilà. Donc c'est la principale source en fait historique sur ce personnage qui n'est pas un personnage historique donc. Mais il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de choses qu'on ne saura jamais. Et c'est pour ça que le roman m'a semblé être un bon moyen pour appréhender son destin.
Emmanuel Favier, je reviens sur ce terme de trahir la réalité historique. Dans le roman que vous avez mentionné sur Virginia Woolf, vous vous posiez déjà la question de où placer le curseur de l'obéissance au réel. Est-ce qu'avec le livre de Rose, vous avez avancé dans ce questionnement infini ?
Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment la grande question. À partir du moment où on s'attache à un matériau documentaire, ce qui est généralement mon cas, la question de la trahison. Alors avec Rose, elle se pose d'autant plus que j'ai parlé de cette forme de révérence que je pouvais avoir envers elle. C'est vrai que par exemple, le personnage de Göring, que je traite de façon absolument romanesque dans La part des cendres, là, j'y suis allée, je me suis amusée. Quoi. Je me suis lâchée avec Göring. J'avais pas peur, j'avais pas de problème avec lui. C'est-à-dire que c'est... Déjà, il donne quand même beaucoup de matière à s'amuser et en faire un personnage grotesque et de masque et d'horreur. Et voilà. Et puis, bon, on a pas trop de scrupules avec un personnage comme celui-ci. Néanmoins, la question de l'invention et de l'imagination, elle est vraiment au cœur du processus romanesque à partir du moment où on décide d'affirmer qu'on fait de la littérature et qu'on fait pas de l'histoire, mais qu'on la fait à partir de documents historiques. Comment trouver l'endroit où je m'autorise à inventer sur des personnages historiques. Ça m'a beaucoup, beaucoup interrogée. Je me souviens d'une discussion avec le romancier Hubert Haddad qui m'a dit, mais en substance, c'était beaucoup mieux formulé que ça parce que Hubert Haddad ne formule jamais une phrase qui n'a pas des profondeurs de sens extraordinaires. Mais en gros, ce que j'en ai retenu, c'est si ça a pu avoir lieu, alors vas-y. Autorise-toi. Donc je me suis autorisée des choses, mais c'est vrai que le fil narratif imaginaire est assez fin et me permet simplement de tenir la structure romanesque à laquelle viennent s'accrocher tous les faits historiques très très documentés que j'ai utilisés. Dans le livre de Rose, le fait romanesque ne concerne que mon personnage de narratrice. Donc à partir de là, ça me libérait. C'est-à-dire que la convention est très claire vis-à-vis du lecteur. Ce qui n'est pas clair, c'est que beaucoup des lecteurs croient que c'est moi, le jeu de la narratrice. Ce n'est pas moi. Mais même si évidemment, elle se pose des questions qui sont similaires. Mais, donc là, le code était plus clair. Mais de manière générale, pour finir, la littérature est tellement... Et puis déjà, qu'est-ce que le réel historique, hein ? Je veux dire, il y a tellement de versions. C'est une de mes grandes interrogations aussi. Qu'est-ce qui nous dit que... l'histoire est vraiment comme ci, comme ça, sachant qu'elle est écrite par les vainqueurs, sachant que voilà, tout est source de subjectivité et de sélection. Mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que comment ne pas trahir son propre imaginaire ? C'est-à-dire que même quand on invente des personnages, moi quand j'invente des personnages, ce qui était le cas dans mon premier roman et donc dans celui que je suis en train d'écrire actuellement, qui ne se fonde pas sur des... Donc c'est documenté mais pas sur des faits historiques. Je n'ai pas l'impression d'inventer des personnages. J'ai l'impression d'enquêter sur des personnages qui préexistent, que je ne connais pas encore, mais dont je dois découvrir les motivations, l'apparence, l'historique. Voilà. Donc je joue avec moi-même aussi, avec cette question de nécessité et de trahison vis-à-vis de ma propre... C'est un peu schizophrène, hein, mais vis-à-vis de ma propre création.
Julie, cette question de liberté, de trahison, vous y êtes venue, j'imagine, pendant la rédaction et puis à la sortie du livre aussi, puisque votre roman, je le disais en intro, a pu faire controverse pour certaines libertés qu'il a prises par rapport notamment aux travaux des historiens que vous citiez, et puis des inventions romanesques que vous proposez qui peuvent donner l'impression de minimiser un peu l'antisémitisme de Simone. Par exemple, vous lui donnez une meilleure amie juive, vous la faites venir en aide à des enfants juifs, vous la faites voler au secours d'une résistante aussi. Comment ces inventions sont arrivées dans le récit ? Pourquoi elles étaient importantes pour vous ?
Alors, en fait, ces inventions m'ont semblé plausibles. Par exemple, l'amie juive, en fait, elle n'a pas une amie juive, elle a une amie, elle a 12 ans, et elle se rend compte a posteriori que cette amie est juive. Et malgré cette découverte, elle restera antisémite. Et en fait, j'ai voulu montrer son aveuglement perpétuel, son aveuglement, malgré le fait qu'il y a vraiment des éléments qui tentent de lui ouvrir les yeux, elle a quand même une amie qui est juive. Et ben malgré ça, elle continuera à professer un antisémitisme sans aucune remise en question. Elle traduira des affiches antisémites. Donc c'était pour. En fait, il y a des signaux d'alerte en permanence, mais malgré ces signaux, elle n'arrive pas à ouvrir les yeux et elle ouvrira les yeux beaucoup trop tard au moment de la libération en fait. Donc ces éléments-là, ces signaux m'ont semblé plausibles. Je pense qu'elle n'a pas pu vivre dans une... Enfin, il y a forcément à un moment donné des éléments qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille. Elle ne l'a pas fait. Donc finalement, ce personnage, c'est l'histoire d'une femme qui se trompe et qui découvrira trop tard qu'elle s'est trompée.
Elle se trompe, en tout cas, la vraie Simone Touzeau, dont est inspirée Simone Grivise, vous le disiez, vous avez parlé de cette affaire jamais complètement résolue de dénonciation des voisins dont deux meurent en déportation. Et puis, il y a aussi parmi les griefs qui vont peser contre cette vraie Simone Touzeau, il y a son adhésion au Parti populaire français, qui est ce qu'il y a de plus fasciste à l'époque. Je propose que vous nous lisiez un deuxième extrait et puis on en discute ensuite.
Je pénètre dans le salon. Je reconnais les tapis, les tableaux, tous ces trucs tapent à l'œil. Je retrouve les fauteuils disposés autour d'un pupitre. Il y a des banderoles aussi, et l'insigne du PPF accroché au mur. Et partout, des clowns de doyotistes, de ci, de là, qui discutent, qui complotent. On me regarde. Je retire ma cape. On se détourne. Ils ne sont pas beaucoup, 25, 30, pas plus. Je me cale au dernier rang, je fixe l'aigle gravé sur le pupitre. Un mauvais moment à passer. Les discours commencent, ça jacte à n'en plus finir. Le bolchevisme, les francs-maçons, les élites, la démocratie, les azous, les juifs, les métèques, les gaullistes. On tue bien tout ça et on obtient la ruine de la France, sa lente agonie, sa mort certaine. Je réfrène un bâillement. Dire qu'un jour j'ai applaudi à cette tambouille, Dieu qu'ils me paraissent tous bornés à présent. Comme si c'était si simple, comme si les coupables, c'était toujours les autres, peuvent pas se regarder le nombril en face pour une fois. Au bout d'une heure, à vomir de la haine, voilà que quelques-uns entonnent un chant. Libère-toi, France, libère-toi, secoue le joug des luttes fratricides que l'étranger apporte sous son toit, sous le couvent de promesses perfides. Et c'est reparti pour un tour. Aucune envie d'écouter ce dégueulis. Je ziote le vestibule, pas moyen de m'éclipser. Ce serait trop visible. Autour de moi, ils sont tous là, à l'unisson, main sur le cœur, ridicule. Enfin, c'est fini. Chacun décolle son cul de sa chaise, je me lève aussi. Je ne peux pas m'empêcher de chercher Antoine des yeux. Où est-il ce fumier ? Tout à coup, une main sur mon épaule, je me retourne, c'est lui. Voici ton billet de train, ton contrat de travail et ton Ausweis. Tu pars lundi prochain. Je lui arrache les papiers sans un merci, et puis quoi encore ? Et je me taille vite fait. Je me retrouve sur la place du marché, couvert, sonné. Je ne sais pas si je suis contente, si j'ai honte, je ne sais plus. Je lève la tête vers le ciel, j'aspire l'air du plus profond de mes poumons. À ce moment-là, sous la cravate, un craquement. Ma chemise se déchire, les boutons ont lâché, je souris. Je remets la cape sur mes épaules et je file à la maison.
On entend dans cet extrait toutes les ambivalences de Simone. Ses doutes aussi, peut-être un début de regret, ce qui a pu vous être là encore reproché par certains lecteurs et lectrices. Moi, je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir d'inconfortable, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, à cheminer pendant 3 ans d'écriture avec un personnage qui fraye avec d'autres personnages aussi peu reluisants et avec des moments de l'histoire particulièrement sombres. Est-ce que cet inconfort a pu vous amener inconsciemment à vouloir effacer certaines choses? Comment vous avez géré ces moments-là?
Alors, c'est vrai que ce personnage, c'est un personnage toxique. Donc, il y a un moment où il y en a trop, en fait. Donc, j'ai fait des pauses dans l'écriture, déjà. L'écriture m'a pris 3 ans au total, mais je me suis arrêtée. Et puis, il y a beaucoup d'autres aspects, en fait, quand on écrit un livre. Il n'y a pas que le personnage principal. Il y a aussi la construction narrative, l'interrogation sur les personnages secondaires, sur le contexte historique. Donc, quand c'était trop pesant, je lisais d'autres livres, je regardais des séries, j'ai regardé un village français notamment, pour avoir des éléments de contexte, des éléments historiques. Voilà.
Vous, Emmanuel Favier, quel genre de relation, de conversation vous avez avec Rose Vallant ou avec Virginia Woolf pour le précédent roman? Est-ce que ça vire à l'obsession au bout d'un moment?
Alors, un peu plus pour Virginia Woolf, mais encore que elle m'accompagnait vraiment, elle continue d'ailleurs à m'accompagner un peu comme une grande sœur et une. En fait, la lecture, le truc, c'est que Virginia Woolf a écrit un journal qui fait plusieurs milliers de pages sur papier Bible et qui est absolument extraordinaire et qui m'a accompagnée après l'écriture du livre. Et donc, j'ai l'impression d'être entrée en communion. Et puis, c'est une écrivaine. Voilà, donc, évidemment, je me suis beaucoup plus identifiée. Il y a eu cette entrée en relation avec grâce à son journal. Puis, c'est quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même relation. Rose Vallant, elle reste un petit peu à distance. Quand je pense à elle, je pense à. Parce qu'il y a une association qui a été créée. Qui s'appelle Mémoire de Rose Vallant, donc à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, dans son village natal. Et j'ai beaucoup sympathisé avec la présidente de cette association, qui est une femme assez étonnante et très dynamique, et qui, quand on s'est rencontrés, m'a offert une petite fève, comme les fèves de galette, à l'effigie de Rose Vallant. Et c'est idiot, hein, mais cette petite fève trône sur mon bureau. Elle m'a accompagnée pendant toute l'écriture du livre. Voilà, je la consultais de temps en temps du regard pour savoir si je ne l'agaçais pas comme ça, à trop la solliciter. Donc c'est une relation qui est restée un petit peu distante, très, très respectueuse. Voilà, il n'y a pas d'identification du tout à Rose Vallant. Je j'oserais pas, j'ai envie de dire. J'osais avec Virginia Woolf, donc c'est un peu idiot de dire ça comme ça, mais... Il y a surtout du respect et encore, il y a encore beaucoup de mystère aussi.
Oui, mystère. Et est-ce qu'il y a des zones d'ombre chez Rose Vallant? Parce qu'on a parlé des zones très grises de Simone, mais chez cette femme intègre et droite, est-ce qu'il y a des zones plus floues?
Alors, je pense qu'elle avait un fichu caractère, ça c'est sûr. Elle ne devait pas être facile. Après, des zones, honnêtement, j'ai rien trouvé. Alors, des personnes ont... Il y a eu quelques théories assez récemment, parce que Rose Vallant, quand elle est décédée en 1980, elle a laissé un certain nombre de biens dont on ne sait pas grand-chose, puisqu'ils ont été... ça s'est fait dans la famille, alors ce n'était pas des ayants droit proches, enfin bon, c'était un peu compliqué comme affaire d'héritage, donc on ne sait pas grand-chose, c'est pour ça que je n'en parle pas du tout dans le livre, parce que voilà, on touche vraiment à la spéculation, c'est délicat, hein, ce sont des personnes qui sont encore en vie, mais a priori, elle aurait laissé des tableaux, qu'elle aurait un début de collection de tableaux qu'elle aurait acheté ou qui probablement lui ont été offerts par des familles reconnaissantes lorsqu'elle avait retrouvé des œuvres. Et donc il y a eu des rumeurs très très éparses, hein, et assez récentes, je crois, sur l'idée qu'elle se serait servie dans le patrimoine. C'est, enfin, de mon point de vue, c'est absolument scandaleux de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer une chose pareille. Non pas que j'imagine, que j'idéalise Rose Vallant, mais je ne vois pas comment on peut consacrer son existence, travailler autant, sans reconnaissance, sans argent.
Oui, puisqu'elle n'était pas payée au jeu de paume, en tout cas.
Oui, je parle beaucoup de la question financière, parce que c'est très important. Elle court tout le temps après l'argent pour faire ses missions, en fait, tout simplement. Je l'ai dit, hein, les reconnaissances sont venues sous la forme de médailles quand même. Elle a eu la Légion d'honneur, elle a eu un certain nombre de médailles, mais finalement pas de reconnaissance professionnelle vraiment. Elle a risqué sa vie pendant la guerre quand même, parce que les Allemands, les nazis avaient clairement prévu de l'éliminer dès qu'elle n'aurait plus besoin d'elle. Hein. Donc, elle a failli se faire attraper à 2-3 reprises. Bon, j'imagine pas que quelqu'un fasse ça et après aille piquer des tableaux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas et qui, à mon avis, en dit plus sur les gens qui émettent ce genre de rumeurs que sur le personnage lui-même. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur d'éventuelles zones d'ombre qui, à mon avis, sont totalement fausses. Après, évidemment, c'est un personnage, comme tout le monde, complexe. Je pense qu'elle devait être ultra pénible dans le boulot, que voilà, elle a fait des erreurs, je pense aussi, en faisant qu'à sa tête, et elle s'est mis des gens à dos. Le livre qu'elle a publié, apparemment, il existe une deuxième partie dans laquelle elle révélerait un certain nombre de comportements, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que nombre de collaborateurs, collaborationnistes, on sont restés à des postes importants, ils s'en sont très bien sortis après la guerre. Donc voilà, comme elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle s'est fait un paquet d'ennemis. Voilà, donc sûrement beaucoup de maladresse, un sale caractère, mais je peux pas imaginer une seule seconde, et je ne crois pas être béni oui en disant ça, hein, mais de la malhonnêteté ou de la rapacité chez elle, pas du tout, c'est impossible.
Alors, met de côté les zones d'ombre, par contre, le mystère, oui, hein, vous en avez parlé à plusieurs reprises, le grand mystère de sa vie, c'est cette compagne, Joyce. On va finir cette rencontre sur une dernière lecture qui évoque justement cette relation, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas également. Hein.
C'est l'hiver, c'est la guerre. Rose, qui est notamment préposée à la logistique et donc au chauffage des lieux, au jeu de paume, hein, a doublé de quelques lainages sa robe solide. Venue d'un milieu pauvre, elle devait acheter des vêtements de bonne qualité, faits pour durer. Curieusement, je ne trouve rien sur ce moment non plus. Les biographies commencent à s'intéresser à elle au moment où les nazis arrivent. Mais je suis fascinée par l'idée de cette femme, seule dans un musée vide, fermé au public, et qui attend, sans bien savoir quoi. Elle n'écrit plus dans la revue, puisque Desarrois n'est plus là pour la diriger. Enseigne-t-elle encore en ses premiers mois de drôle de guerre ? Il est plausible que, sevrée d'activité intellectuelle, elle se soit remise à sa thèse, puisqu'elle la soutiendra en 1942. De nouveau, je me demande quand elle fait la connaissance de Joyce. Il paraît plus vraisemblable que ce soit après la guerre, lorsqu'elle multiplie les échanges avec divers services européens dans son entreprise de sauvetage des œuvres. Mais il n'existe apparemment aucune information sur la date et les circonstances de leur rencontre. Leur correspondance a disparu par le feu, d'après certaines sources, et cette incertitude persistante autorise toutes les spéculations. Admettons dès lors qu'elles se soient rencontrées avant la guerre, par exemple au moment où Rose s'occupe de l'exposition sur l'art américain. Elle se rend fréquemment à l'ambassade pour négocier les tarifs de transport des œuvres. Elle a remarqué cette jeune et jolie blonde à l'air intelligent, dont l'accent tient autant de Marlène Dietrich que de Carole Lombard. J'ai bien le droit de fantasmer l'accent de Joyce, puisque je n'aurai jamais accès à sa voix, à elle non plus. Rose s'arrange pour venir en fin de journée, invite la jeune Britannique à boire un café après le travail. Le café devient cognac, et une chose en entraînant une autre. Mais si mes spéculations sont vaines, et que Joyce n'est pas encore dans sa vie, cela signifie-t-il que Rose est tout à fait seule en cette fin d'année 1939 ? Ses parents sont morts, ce qui lui reste de famille est au loin. Elle a conservé la maison de Saint-Étienne de Saint-Jouard, mais le contexte l'empêche d'y séjourner. La folie des années 30 est tranchée net par la guerre, et les relations amoureuses non orthodoxes en ont nécessairement souffert. Sans doute n'est-ce d'ailleurs que dans cette solitude qu'a pu se forger le sentiment de sa mission.
Et la solitude, hein, c'est encore un point commun à ces deux femmes, Simone et Rose. Elles vont toutes les deux mourir très seules. Simone Touzeau en 66, je crois, pour encore une fois, cette femme qui a réellement existé. Et vous le disiez, Rose Vallant en 1980. Elle a ensuite complètement disparu des radars pendant plusieurs décennies. Et là, ça y est, on commence à la voir réémerger. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
à vous de nous avoir fait découvrir ces deux personnages. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur elles.
Merci.
Je vous redonne les références des livres. Alors, le livre de Rose sur Rose Vallant. Si vous avez envie de prolonger la lecture, je vous invite aussi à lire le roman précédent d'Emmanuel Favier qui s'appelle La part des cendres. Et puis, vous le savez peut-être ou pas, on a une réalisatrice ici à Rennes qui s'appelle Brigitte Chevet, qui en 2014, je crois, avait consacré un documentaire à Rose Vallant. Il est disponible ici à la Bibliothèque des Champs Libres. Ça s'appelle Rose Vallant, l'espionne au tableau, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous pouvez voir ce film que je vous recommande également. Et puis, pour connaître l'histoire romanesque de Simone Grivis, Vous ne connaissez rien de moi, de Julie Héraclès. Et si vous voulez compléter cette lecture par une approche plus historique, on vous conseille La Tondue de Philippe Rétigné et Gérard Leray. Là, c'est l'enquête historique sur Simone Touzeau qui a été menée par ces deux historiens. Merci beaucoup à vous. On vous donne tout de suite rendez-vous pour la séance de dédicace avec Emmanuel Favier et Julie Héraclès. Ça va se passer juste à côté.